Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode de Comics Weekly de l'année 2012. Le Comics Weekly 77.
Un Comics Weekly plein d'espoir, de tendresse, de bonne humeur et d'espérance.
D'espoir, je sais pas. Étant donné que nous sommes à deux doigts de tomber dans le chaos le plus total.
Ah ben bah oui. J'aime bien parce que néanmoins tu d'espoir tu sais pas, mais alors espérance oui.
Non.
Par exemple.
Ah ben on peut essayer, hein, on peut essayer 5 minutes. Ah,
l'espérance que peut-être il y aura un 22 décembre 2012 un jour, sait-on jamais. Ou que on survivra après la fin du mois de janvier.
Attends, ça doit s'arrêter au 21, c'est ça le truc?
Ah ouais.
21 décembre.
Ah merde, j'avais prévu des vacances jusqu'au 23 l'année prochaine. Enfin cette année, ouais.
Mais écoute, tu mourras en vacances déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quand le monde s'arrêtera, tu seras en vacances. C'est déjà beaucoup mieux que certains qui seront en train de cravacher au taf ou je ne sais où d'ailleurs. Bon bah sur cette jolie note d'espoir, on va.
Je l'avais dit de l'espoir, il en faut.
Non mais c'est vrai que bon, tout va bien, on vient de perdre le triple A. C'est beau.
Donc selon notre président, le monde doit tous être mort d'ici 6 mois.
On fait tout un foin des histoires d'andouillettes. Je vois pas quel est le. Enfin. Voilà, c'est pas grammatique, quoi.
Et puis c'est pas grave, de toute façon, si Hollande est élu, on sait tous qu'on plongera dans la guerre et les parents mangeront leurs enfants. L'enfer s'ouvrira.
Je ne sais pas qui tu essayes de parodier là. Honnêtement, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. Bref, ce n'est pas le sujet. Même si on pourrait très bien faire un spécial dessus un jour. Ce n'est pas à exclure. On va quand même parler du sujet qui nous intéresse, la prostitution. Donc, alors. Non, bien sûr, on va parler de comics, hein, comme d'habitude. On va faire donc les grosses sorties de la semaine. Il y en a quelques-unes. Et avant cela, bien sûr, on va passer par les traditionnelles news.
News.
J'adore ton jingle.
On va le garder.
Attends, vas-y, refais-le quand même.
News.
Tan, tan, tan. Voilà. Comme ça, on a la complète.
Non, 1979.
Alors, dans les news de cette semaine, la grosse news importante, c'est quand même la nouvelle vague de titres qui va nous arriver tout droit des studios DC et l'annulation de d'autres.
Voilà, donc 6 titres disparaissent.
Et 6 titres arrivent.
Et 6 titres arrivent, donc le compte est bon, on reste à 52 au fait. Ouais.
Oui, sans compter les mini.
Sans compter les mini, évidemment. Et
d'ailleurs, ouais. Est-ce que ces nouveaux titres sont réellement des ongoing? Puisqu'apparemment, ils sont tous prévus en 12. Enfin, en tout cas, il y en a deux qui sont déjà prévus en 12.
Bah, on sait déjà que Batman Incorporated, on savait déjà que ce serait en 12.
Non, mais ils savent déjà que certains ne fonctionneront pas et n'iront pas au-delà de 6. Donc ils disent, on va prévoir 12. Et puis comme ça, si ça s'arrête avant, on aura l'air moins con.
Ouais, mais dans ce cas-là, The Shade est un ongoing.
Non, c'est prévu en 12 à la base.
Eh oui, mais la nouvelle série de James Robinson est en 12 elle aussi. En tout cas, lui va rester 12 numéros. Alors, y aura-t-il un autre scénariste ensuite? Enfin, on va voir. Donc, comme on a dit, il y a une James Robinson qui arrive avec une nouvelle série, JSA.
C'est pas Earth 2? Ça s'appelle? Attends,
si, c'est sur Earth 2. C'est situé sur Earth 2.
Ça se passe sur Terre 2, à compléter avec World's Finest, hein, qui va aussi se passer sur Terre 2, et Power Girl, qui va aussi se passer sur Terre 2.
Mais Power Girl, c'est dans World's Finest. Hein. Attention.
Autant pour moi.
C'est l'association de Huntress et Power Girl.
Le truc, c'est qu'il y a une série qui s'appelle Earth 2, d'après ce que j'ai compris, et une série qui s'appelle World's Finest.
Non, c'est il y a une série World's Finest et une série JSA qui se passe sur la Terre 2.
D'accord, et la série s'appelle bien JSA, et pas Earth 2.
Oui.
Ok.
Alors, est-ce que, juste comme ça vous pose pas problème?
Pas particulièrement. Si t'es un nouveau lecteur, tu vas rien capter. Voilà, JSA, c'est pas vraiment un truc pour un nouveau lecteur. Hein, c'est...
Ah, parce que tu trouves que les anciens lecteurs captent déjà quelque chose?
Bah
parce
oui, moi je t'avouerais que... écrit par Jeff Jones, j'arrive à comprendre.
Ah
hein,
oui, non, je parle pas de la JSA, je parle du simple fait que déjà, on a du mal à savoir la véritable continuité dans DC aujourd'hui. Alors, nous rajouter en plus une Terre 2, je suis pas certain que ce soit la meilleure chose à faire.
Ouais.
Parce que là, en gros, on est en train de reprendre tout ce qui avait mené à Crisis on Infinite Earths, quoi. Donc, moi, je suis très content de voir James Robinson arriver sur une série JSA, parce que, bon, voilà, ça lui sied bien des choses un petit peu basées sur le passé, avec des vieux personnages.
Revenir sur une série JSA? Parce qu'il avait participé au premier numéro de la dernière série.
Oui, revenir, mais enfin, voilà, c'est un personnage que, enfin, un scénariste que, pour lequel je trouve que ça se passe bien, ce genre de scène.
C'est peut-être un personnage, au fait, hein, peut-être, je sais pas.
C'est un nom de plume, en fait. Mais, je suis preneur, quoi. Le seul truc, c'est que, vu qu'on n'a aucune idée de la continuité actuelle, telle qu'elle est, parce que franchement, on a beau dire ce qu'on veut, je suis désolé, personne ne bite rien. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, on ne sait plus ce qu'on doit tenir, ce qui doit être pris en compte, ce qui ne doit plus l'être. Nous rajouter une Terre 2 par-dessus, je suis pas certain que ce soit la meilleure idée. Après, bon, ça n'engage que moi. Même si les histoires sont bonnes, quoi.
Je dirais pour le moment, on coopte rien à la continuité parce qu'il n'y a pas vraiment de référence dedans, donc c'est que des nouvelles histoires. Donc c'est pas bien grave, mais à partir du moment où il faudra effectivement poser des nouvelles histoires qui auraient l'air d'être en contradiction avec ce qu'on sait des personnages, là oui, on commencera à avoir des maux de tête, je pense. Hein.
Moi, ce qui j'aime, ce qui me gêne surtout, c'est l'impression qu'il donne de voyager comme ça un peu à l'aveugle et d'improviser au fur et à mesure des mois. Là, ça fait à peine 6 mois quand même qu'on a commencé ces New 52 et bah on en est déjà à supprimer des titres, à en mettre des nouveaux, à ne pas savoir comment fonctionne la continuité. Est-ce qu'il y a toujours 52 mondes? Est-ce que bon, apparemment la Terre 2, on n'en parlait plus. Finalement, on en parle à nouveau.
Apparemment, il faudrait toujours considérer qu'il y a 52 Terres puisqu'il y a la soi-disant série de Grant Morrison Multiversity qui doit arriver un jour en 2012, qui devait déjà arriver en 2011. Un jour, on la verra cette série. Mais bon, normalement, il y aurait 52 Terres. Mais
qui dit qu'il garderait 52 Terres on peut se dire que ça sera retour à un nombre infini de Terres, justement parce que c'est écrit par Grant Morrison et que ils ont voulu lui lâcher la bride.
Ouais, mais ce serait pas cohérent avec le reste.
Ce sera peut-être un truc totalement à part en même temps. Ou bien alors, ce sera peut-être un truc se situant avant le relaunch.
Ça m'étonnerait quand même. Là, c'est n'importe quoi. Enfin.
Bah, on a bien eu Batman Inc. Alors, je sais pas si la suite, j'ai pas compris ça, mais est-ce que tu le sais, cette information? Est-ce que Batman Inc., d'ailleurs, dont on m'a parlé, puisque c'est l'une des nouvelles séries d'annoncer, Batman Inc., est-ce que ça se situe là, à partir de maintenant, dans le relaunch, ou alors c'est toujours avant?
Ben non. Bah, je pense que c'est post-relaunch.
Ben, apparemment, ce serait la suite de ce qui a été entamé, donc avant le relaunch, mais il faudra en tenir compte aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a un problème à savoir. Qu'est-ce qui est valide ou non? Alors, nous rajouter la Terre de dessus, c'est ça le problème, mon gars.
Cela dit, je viens de voir une image, et je me dis que si cette image est tirée des futurs épisodes de Batman Inc., ça se passe effectivement durant le relaunch, puisque Batman a son symbole noir, et n'a plus le vieux symbole jaune qui fait de la lumière.
Non, mais de toute façon, Batman Inc., ça a été mentionné depuis le relaunch dans Batman et Robin. Donc, on sait déjà que c'est dans la continuité.
Oui, puis il y a Batwing.
Ouais, non, mais bon, enfin voilà, quoi. Il faut en tenir compte, il faut pas en tenir compte. C'est vraiment un problème, quoi. Au moins, histoire d'avoir une base qui nous sorte, je sais pas, moi, une timeline ou un truc dans le genre. Parce que là, nous laisser dans le flou, voilà. Moi,
je dirais ce qui est un peu handicapant avec Batman Inc., c'est que par exemple, t'as eu le one-shot Léviathan Strike le mois dernier. Mm-hmm. Et c'était précisé quand tu ouvrais le bouquin que c'était pré-relaunch.
Mm-hmm. Tout à fait, ouais.
Donc c'est un peu prise de tête quand même.
Mais comment ça peut être pré-relaunch s'il faut prendre en compte les événements de Batman Inc. dans le nouveau relaunch, enfin, voilà. Je sais que ça peut paraître des points de détail purement geek, mais non, quoi. Enfin, quand on essaie d'avoir un minimum de cohérence à travers un monde, comme ils essaient de nous faire croire, c'est difficilement acceptable de la part de personnes qui, voilà, vont nous dire oh, on a refait le monde à zéro, ça va être vachement plus simple et tout. Au contraire, ils sont en train de vachement plus compliquer les choses, là.
Non, mais il faudrait utiliser, même par exemple, le DC Universe Present, il faudrait l'utiliser comme une base chronologique de l'univers DC.
Exactement. Ouais.
Plutôt
nous présenter une bonne chronologie, on comprend, voilà, tout le monde le. Alors que là, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. C'est pas essentiel pour le moment parce qu'il n'y a pas de référence énorme à la continuité dans les titres, mais à partir du moment où je pense, quand on entrera dans la deuxième année des séries et où là, on commencera vraiment à avoir des références, ouais.
Je sais pas si vous vous rappelez, dans 52, à l'époque, il y avait eu, au tout départ, à chaque fois, il y avait un backup, et au tout départ des numéros, il y avait un truc qui nous racontait l'histoire de l'univers DC. Mmh. Il pourrait exactement nous faire la même chose dans DC Universe Presents.
Ouais. Et
En plus, ça débarrasserait, je pense, tous les scénaristes actuels de devoir le faire dans leur propre série. Déjà qu'ils n'ont que 20 pages, ils s'embêteraient moins, ils auraient pas besoin de placer des explications pour dire telle chose est arrivée là, telle chose est arrivée là, quoi.
Puis là où on voit les limites aussi par rapport au one shot que tu mentionnais, Sam, c'est que par exemple il y a toute une histoire autour de Batgirl spoiler.
Ouais.
Or avec le relaunch, bah du coup tout ça, ça, enfin je veux dire, on pourra pas voir de suite à ça. On sait même pas ce qu'elle est devenue, comment elle s'appelle. Stephanie Brown, ouais.
Ah oui, Stephanie Brown, oui.
Ouais.
Bah Dan Didio a dit qu'elle existait toujours, mais en tant que spoiler, mais c'est vrai que. Par exemple, Cassandra Cain, on sait pas ce qu'elle est devenue.
Mais faut pas le dire, c'était un spoiler.
Ouais, voilà. Au lieu de nous faire des mini-séries comme My Greatest Adventure, par exemple, ouais, qui, honnêtement, je suis pas certain, remporte un gros succès, peut-être qu'ils devraient nous faire quelques mini-séries sur des personnages assez centraux de l'ancien monde et nous expliquer, ou même une série de one-shot, quoi. Nous expliquer ce qu'ils sont devenus, ou au moins nous les placer, quoi. Enfin, bref. Dans les nouvelles séries, quand même, parce qu'on va continuer un petit peu, on a G.I. Combat qui
ça
va
fait...
remplacer Men of War.
Oui, bah oui, c'est complètement ridicule. Pourquoi remplacer un titre qui fonctionne pas par un autre titre qui ne va pas fonctionner?
C'est débile.
Oui, G.I. Combat, honnêtement, ça m'étonnerait qu'il fasse long feu. Déjà, il tape sur 12 numéros, même là-dessus?
Non, ça, ce serait un ongoing.
Mmh. Ah oui, non, mais là, carrément. Bah, moi, je pense qu'il va pas durer plus
ouais,
de 6.
Ouais, un ongoing hein. De 8 épisodes.
Ouais, ouais, et encore.
On a Justin Krull quand même dessus.
Oui, enfin, ça va être des équipes créatives qui vont tourner. Donc...
Ouais, et du Justin Gray et Jimmy Pagnotti sur The Unknown Soldier. Voilà,
c'est oui, une réinterprétation de...
Ouais. Ben oui, c'est cette suite de personnages de chez Vertigo qui avait commencé chez DC, qui vont revenir dans le giron de DC pur, quoi.
Ça pourrait être intéressant, The Unknown Soldier, mais c'est vraiment la seule partie de ce magazine qui m'intéresse.
Unknown Soldier, donc on va pouvoir découvrir la dernière série en date bientôt chez Urban.
Tiens,
en avril, je crois.
On n'a pas dit, je pense, que Paul Levitt c'était sur World's Finest. Je sais plus si on avait parlé.
Non, on n'avait pas donné les équipes créatives. Bah,
parce que autant James Robinson sur la GSA, je veux bien, mais alors Paul Levitt, ça me fait peur quand même. C'est un petit peu le Chris Claremont maintenant de chez DC. Autant il est super balèze pour parler de l'industrie des comics et de parler de la maison d'édition, mais autant pour les scénarios, là, ils sont bien sympas de le laisser sur la Légion parce que c'est pas terrible.
Bah, Huntress non plus, c'est pas terrible. Hein.
Et qui, Huntress qui donc se passe sur Terre 2. Maintenant, on a la réponse.
Ouais.
On va continuer dans les séries, les nouvelles séries avec Ravagers par Howard Mackey, retour des années 90, et Ian Churchill, quand même.
Ancien ou nouveau style?
Ah ça, je ne sais pas. Malheureusement, mais je pense que ça va être plutôt nouveau style.
Ouais.
Mais donc voilà, tiré de la branche New, enfin de la branche Teen Titans, donc vraiment le coin de Scott Lobdell. Donc on fait venir que des gens des années 90. Hein,
bah oui, Bob Arras, qui dit Bob Arras dit Scott Lobdell, et qui dit Bob Arras dit aussi Howard Mackey. Donc moi ça me surprend pas de le voir. Je m'attendais à le voir surgir sur une série un de ces quatre, et bah, finalement ce sera là-dessus.
Selon Bob Arras, ce ne serait pas lui qui a fait venir Howard Mackey, mais c'est Dan DiDio qui l'aurait fait venir.
Oui, bien sûr.
Ah, ça c'est selon Bob Arras. Hein.
Maintenant, tu vois, Howard Mackey fait son grand retour, et enfin son grand retour. Là, c'est par la petite porte, mais peut-être qu'on va lui confier d'autres choses après.
Ouais, il manque une, c'est du poulet.
nous reste la dernière série. Alors là, pareil, un pitch assez étrange. Dial H, un revival de la série Dial H for Hero, une série des années 60, où à l'époque, un téléphone magique faisait que quand tu décrochais ce téléphone, tu te chopais des super pouvoirs.
Donc, c'est une maladie vénérienne. Hein.
Ah, j'avais pas entendu le pitch comme ça, moi, tu vois, d'accord, ok.
Et aujourd'hui, je sais pas trop comment ça va se passer, ils ont intérêt à bien moderniser le concept, parce que si c'est encore une cabine téléphonique ou un téléphone à cadran, ça va paraître un petit peu bizarre.
Ah d'accord, non mais moi je pensais que c'était plutôt un truc, alors d'accord, j'ai pas compris ce que tu disais, je pensais que c'était plutôt un truc style la valise RTL, tu vois, genre t'es tiré au sort, et tu quand tu prends le coup de fil, au lieu de gagner genre le contenu de la valise ou de gagner un voyage, tu gagnes des super pouvoirs.
Alors c'est peut-être le concept modernisé, moi je te parle du concept des années 60.
Ouais bien sûr, bien sûr.
Je sais pas, je me suis pas du tout renseigné sur la nouvelle série, on verra quand ça va débarquer, mais c'est vrai qu'ils ont intérêt, donc on l'avait pas dit, ça va débarquer au mois de mai, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé. Faudra voir comment ils vont moderniser le concept, quoi. Mais c'est assez étonnant de faire revenir une vieille franchise comme ça. Donc, bah, les titres annulés. Hein, on a cité quelques-uns. Il y a Men of War. On a aussi Mister Terrific, Omak, Okendove, Blackhawks et Static Shock.
Ouais, pas étonnant pour la plupart. Par contre, Okendove, je pensais qu'ils allaient quand même le garder, tu vois. Mais ça doit être Rob Liefeld qui peut pas tenir, je pense. Que...
Mais non, apparemment non, puisque le plus dingue, c'est que avait été annoncé dans les sollicitations le fait que Rob Liefeld allait prendre et les dessins, mais aussi le scénario.
Bah donc c'est pour ça que c'est annulé. Hein.
De même que
deux épisodes, c'est pour ça qu'il pouvait tenir.
De même que Mister Terrific allait au numéro 7 changer d'équipe créative.
Mais j'ai regardé les. Il y a un site qui donne beaucoup de détails sur les ventes de comics. Et par rapport au fait aux chutes enregistrées entre le numéro 2 et le numéro 3, tous les titres là annulés ont chuté énormément entre le numéro 2 et le numéro 3. D'ailleurs, on démarrait déjà très très bas, quoi. Et dans les titres menacés, il y avait par exemple Blue Beetle. Bon, alors pour le moment, il reste.
Bah, pourquoi reste-t-il ? Honnêtement, je pense que c'est vraiment pour la diversité. Parce que regarde, Mister Terrific, c'est un personnage black.
Ouais,
au Mac,
ouais.
C'était un personnage asiatique.
Static Shock.
Static Shock, c'est un black. Black aussi, il reste ouais. Plus que Blue Beetle qui est un hispanique. Voilà, quitte à faire une série sur des personnages, on va dire, de la minorité visible, ce qu'il faut appeler ça comme ça, pour être politiquement correct, mm-hmm. Ben, pourquoi pas faire une série sur Cyborg ? Cyborg, elle va en poupe avec Justice League. Bon, je trouve le personnage toujours aussi inintéressant, mais quitte à attirer les foules, quoi.
D'autant plus que c'est le seul, finalement, du coup, si je dis pas de bêtises, des membres de la Ligue actuelle qui n'a pas sa propre série solo. Mmh.
Alors, à savoir que Mister Terrific devrait rejoindre le cast de Justice League au deuxième arc. Mmh. Bon, bah voilà quoi, il aura une belle intro. Mais ils sont cons, enfin, je veux dire, Mister Terrific a toujours été un personnage quand même de seconde zone. Pourquoi lui avoir donné une série ? C'est débile. Je veux dire, à la rigueur, s'il voulait lui donner une série, attendre de lui donner l'exposition qu'il mérite dans Justice League, et ensuite lui faire sa série solo, pas l'inverse. Ouais, je sais pas, moi, je sais pas si vous l'avez lu, moi je vous avouerai que j'ai même pas lu le premier numéro.
J'ai lu le premier, mais c'était pas terrible. C'était pas moi, mauvais, mais...
De même que Static Shock, hein, je n'ai pas lu le premier numéro, enfin je m'en fous, quoi. Ouais, bon bref, donc voilà, on reste avec 52 séries, on va voir où ça va. Mais, voilà, bon, je suis pas certain que ça prenne la direction que j'attendais, personnellement.
Pareil. Disons que je m'étais un petit peu résigné, parce que depuis le début du relaunch, je trouve que voilà, il navigue à vue, et en plus de ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de très passionnant finalement de tout ça.
Ah, il y a quand même quelques bonnes séries, quoi.
Il y a quelques bonnes séries. Bah écoute, j'ai lu les titres Green Lantern que j'avais en retard, tous les titres Green Lantern, les trois. Enfin, sauf Red Lantern, voilà. Je me suis pas rattrapé sur Red Lantern. Mais honnêtement, la franchise Green Lantern, je trouve ça pas mal, ce qui s'y passe. Bon, voilà.
Mais bah, justement, laquelle tu préfères, puisque tu les avais pas lues encore.
Écoute, je trouve que Green Lantern Corps est vraiment pas mal.
Ah, j'allais dire The New Guardians, mais...
Non, Green Lantern Corps, est vraiment pas mal, je trouve. Green Lantern tout court, d'ailleurs, s'améliore.
S'améliore, ouais. Ouais. Mais le début était poussif et chiant.
Oula, il se passait pas grand chose, je trouve. C'était un peu long. Et puis, il y avait pas grand chose de nouveau, surtout. Voilà. Ouais. Jeff Jones était en terrain conquis, connu.
Mais on parlera du numéro 5. On en reparlera plus tard dans le podcast.
Ouais, on va parler du numéro 5 tout à l'heure. Bah, on va rester chez DC avec une autre news qui est tombée aujourd'hui. Avec Green Arrow, qui aurait un pilote en cours d'écriture pour la CW. CW qui cherche toujours à remplacer la Smallville, hein, la franchise à succès pendant 10 ans. Et donc, voilà, on parle de l'écriture d'un pilote. Alors, derrière le clavier, puisque j'allais dire au stylo, mais non, aujourd'hui, personne n'écrit avec un stylo, enfin, c'est dépassé. Greg Berlanti, c'est No Ordinary Family, c'est Dawson, c'est aussi Green Lantern de film.
Oui, donc parce que je l'ai vu le film Green Lantern. J'ai fini par le voir.
Ah, ça y est, enfin.
Oui, c'est une grosse daube.
Pourquoi je m'attendais à cette réaction ? Pourquoi ?
Écoute, et t'as bien aimé Thor ou pas ?
Oui, j'ai vu.
Ah bon ? Bah moi j'ai préféré Green Lantern.
Ah, j'ai préféré Green Lantern à Thor aussi, parfois.
Ah non, c'est vraiment pourri. C'est-à-dire, il y a des passages qui sont franchement tellement clichés que c'est ridicule.
Je crois que c'est assumé en fait. Hein.
Au corps défendant quand même de ce film. C'est le seul film de super-héros où il y a cette scène qui est juste mythique, extraordinaire, et rien que pour ça, j'ai envie de leur dire bravo. C'est cette scène où t'as Green Lantern qui se ramène devant sa copine,
ouais.
Dit « Mais c'est toi ?» Bah, comment tu m'en connais ?»« Bah, c'est pas avec ton masque à la con que je vais pas te reconnaître. »
Voilà. Non, mais c'est clair.
C'est ce que ça,
c'est la meilleure. C'est...
Mais même de tous les films de super-héros, il fallait faire cette scène un jour dans un film de super-héros, et ils l'ont fait, et rien que pour ça, bravo.
Mais surtout Carole qui lui dit mais je te connais depuis qu'on est gosse, je t'ai vu à poil.
Oui non mais c'est clair, moi cette scène aussi je l'ai trouvée excellente. Cette scène est géniale.
Voilà, Sinestro est pas mal, mais pour un film qui est censé se passer dans l'espace, il y a quoi 5 minutes en tout. Tu te dis oui, il y a quand même un problème.
Et qu'as-tu pensé de ce beau parallaxe?
Ah oui, Chrona transformé en c'est n'importe quoi.
Non, puis même parallaxe en nuage quoi. Ouh, je suis le nuage maléfique.
Ouais, on avait eu pire dans Fantastic Four.
Oui, c'est pas
oui, Galactus, c'était ça. Mais, justement,
mais c'était encore... Enfin, on voyait rien, là. Enfin, c'était encore pire.
Quand il passait devant Jupiter, on avait la forme de la tête.
Ils avaient quand même découpé dans un carton, tu sais, le
si tu penches la tête, que tu fermes un œil et que tu clignes l'autre, très rapidement, tu arrives à distinguer la tête de Galactus.
Il paraît qu'on le voit avec une pub Coca-Cola aussi, c'est subliminal.
Bon, revenons quand même au pilote de Green Arrow, j'allais dire Green Lantern, du coup. Donc, Greg Berlanti, on a aussi Mark Guggenheim, plus besoin de le présenter. Mm-hmm. Et on aura aussi Andrew Kreisberg, qui a bossé sur des scénarios pour la Justice League, la série animée, sur les Simpsons, sur Boston Legal, sur Fringe, entre autres. Hein, il a fait d'autres trucs, mais je vais pas tout citer non plus. Donc à savoir par contre que cette série ne serait pas basée sur l'univers du comic, alors maintenant, duquel on parle, parce que c'est bien beau, mais vu le nombre de relaunchs de Green Arrow et les différentes versions qu'il y a eu dans les différents relaunchs, je sais pas trop de laquelle il parle, et ce serait basé sur un total nouveau monde.
Encore.
Ouais. Enfin, faut voir, quoi. Bon, déjà, on verra si ça passe le stade de l'écriture, si le pilote sera tourné, et ensuite, s'il sera accepté. Rappelons-nous de Wonder Woman. Par exemple.
Ou évitons de nous en souvenir.
Un chef-d'œuvre.
Wonder Woman, qui d'ailleurs, le costume a pu être utilisé par David Kelley, hein, puisque dans sa série Arislo, qui est une très très bonne série d'avocats, et j'encourage tout le monde à la voir, le costume a été réutilisé pour un personnage qui passe, voilà. Et qui se croit être Wonder Woman. Le petit clin d'œil est sympa.
Erica Durance, c'est ça?
Voilà, Erica Durance. Merci.
Jouer Lois Lane dans Smallville.
Enfin, comme quoi, on reste dans l'univers du comic, oui. Quand même. Impressionnant. Et je trouve, c'est une bien plus belle Wonder Woman que celle qui était prévue au départ.
Et tu vois, là, mon niveau de référence, quand même.
Non, mais Erica Durance, quand même. Erica Durance, qui est mariée, d'ailleurs, je crois, avec un acteur de Stargate.
J'ai cru que t'allais me dire un acteur porno. Je sais pas pourquoi, je croyais que t'allais me dire ça.
Ah ben il a peut-être fait du porno, je sais pas. Il jouait un des Goa'uld, je crois. Je connais rien à Stargate.
C'était... Jaffa crie. Hein. C'est tout ce que tu as besoin de savoir.
Ah oui, faudrait que tu t'y mettes. C'est vraiment bien.
Ah ouais, mais moi j'aime pas tout ce qui est science-fiction comme ça. Enfin,
je suis pas un grand fan de science-fiction et pourtant j'aime bien.
Puis bon, ça commence à dater quand même. Donc c'est bien des Goa'uld, on dit ça.
Oui, les Goa'uld.
Goa'uld, oui.
En français, c'est les Goa'uld. En anglais, ce sont les Goa'uld.
Rends-toi compte.
Eh ben, c'est cool pour elle. Pour lui, surtout.
Oui, surtout pour lui, j'allais dire.
Allez, on va passer à la suite des news et on va faire donc le petit passage de DC à Marvel avec Walter Simonson qui revient chez Marvel pour bosser avec Brian Michael Bendis sur un arc d'Avengers, qui serait d'ailleurs le dernier arc de Michael Bendis. Brian,
je sais pas, parce que Bendis a déclaré il y a pas longtemps qu'avec tous les scripts en fait qu'il avait, grosso modo, il resterait sur les titres Avengers encore quasiment toute l'année 2012.
T'as le mec, en fait, il veut pas partir, quoi.
Oui, j'ai l'impression.
Ouais, ouais.
Il veut pas lâcher le chèque.
On reparlera de Brian Michael Bendis tout à l'heure, pas forcément bien.
On est forcé?
Ah oui, bah oui. On va parler de sa sortie de la semaine. Un crossover entre Daredevil, Punisher et Avenging Spider-Man arrive en avril, qui s'appellera The Omega Effect. Il sera écrit par Mark Waid et Greg Rucka, tous les deux, en tandem, oui. Qui seront co-scénaristes sur l'épisode Avenging Spider-Man.
Bah tant mieux.
Le tout sera dessiné par Marco Cecchetto. Le pauvre, il va avoir du boulot ce mois-ci. Parce que 3 épisodes pour le mois d'avril, hein, ça va lui faire...
Moi j'adore Marco Cecchetto.
Mal au poignet, oui. Je pense. Et donc, vu le nom, The Omega Effect, hein, l'histoire c'est que... Bon, pour ceux qui...
Darkseid arrive dans l'univers Marvel, c'est ça?
Non, ça pourrait, mais non, ce n'est pas ça. Pour ceux qui ne suivent pas Daredevil, un petit récap. Daredevil a récupéré un disque de données qui contient des infos sur les 5 plus grosses organisations criminelles de l'univers Marvel. Et donc, il l'a mis de côté en attendant de savoir ce qu'il peut faire avec. Et le Punisher va venir
J'allais
frapper...
J'allais dire une connerie sur ce qu'il pouvait faire avec un CD comme ça. Mais...
Le Punisher a eu vent de cette information, va venir frapper à la porte de Matt Murdock pour lui dire « Écoute, moi je peux te le protéger, ton disque. » Et le Punisher, le Daredevil, lui, va entendre « Je peux protéger ton disque et m'en servir pour tuer des gens. » Donc,
c'est ce qu'il fallait entendre, je pense.
Donc, en gros, Reed Richards, qui est au courant de l'histoire, va envoyer Spider-Man faire un peu l'arbitre. Voilà, grosso modo, le pitch, apparemment. Moi, en tout cas, ça pour moi, ça s'annonce super fun et j'ai hâte de le lire. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai aucune réaction.
Bah, je sais pas, moi, la série Daredevil par Mark Waid, j'ai lu le premier épisode et j'ai pas du tout accroché.
Eh bien, je t'en veux à mort.
Non, mais parce que vraiment, l'ambiance rétro, moi, je peux pas.
Moi, mais c'est pas si rétro que ça, hein, crois-moi.
Et bah, je vais quand même le lire parce que Greg Rucka. Voilà. Bien obligé.
J'adore l'explication la plus simple. Je vais être obligé de le lire parce que c'est Greg Rucka, quoi.
Bah oui, Qu'est-ce que tu veux que je...
Benny, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, moi je pense que le changement a été vachement quand même radical sur Daredevil et ça m'a pas trop captivé les épisodes non plus que j'ai lus jusque-là. En plus j'ai lu le dernier, là le 7e du mois de décembre, qui était super déprimant. C'est un,
Oh, mais c'est un
bah,
one shot. Ça
oui
fait
c'était un one
plaisir de
shot.
lire un one shot, quoi.
Ouais, mais enfin bon voilà, ça m'a pas donné envie plus que ça justement de lire la série. Alors je sais pour le disque là qu'il a trouvé, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je vais voir. De toute façon, Daredevil va se retrouver, comme t'as dit, dans Spider-Man aussi, avec Black Cat.
Ouais, bah l'épisode de cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de le lire malheureusement.
Moi non plus,
Moi non plus.
pour l'instant. Je vais peut-être y jeter un œil à cette saga, ça a l'air
Bah,
sympa.
sachant qu'en plus, pour une fois, ce n'est pas écrit par Dan Slott, c'est écrit par Mark Waid.
Oui, il se prend un mois de pause.
Ah oui, d'accord! Alors ça, par contre, j'avais pas vu l'info, tu vois. Je pensais que c'était toujours Dan Slott, du coup.
Non, pour cet arc, puisque c'est un arc en deux, c'est écrit par Mark Waid. Et apparemment, ça devrait lancer
Avoir
un
des
nouveau
répercussions.
triangle amoureux.
Ouais.
Ouais.
Bon, à voir, hein, à voir. Je sais pas, je l'ai pas lu, donc. Si j'ai le temps, j'en ferai un petit unspoken cette semaine.
Tu vas en faire.
D'accord.
Donc Matt Murdock va devenir
Je te mets en
Superman, je pense.
ordre. Regarde Jedi.
Même par Skype, j'arrive à le voir.
Oui.
Putain, on a explosé le compteur de temps pour les news, c'est génial. On a une demi-heure. Allez, on continue. Cap et Bucky, on en parlait l'autre fois, on se demandait un petit peu l'avenir. Je sais plus, c'était peut-être toi, Benny, qui demandait un petit peu l'avenir de la série Cap et Bucky.
Ben, oui, je me demandais d'ailleurs si ça allait toujours se continuer à raconter au fait des histoires dans le passé, et d'ailleurs non, puisque
Eh bien
le
non,
dernier
puisque...
arc se trouve dans le présent en
Et
plus.
ben de toute façon, la série va changer de nom. Elle ne va plus s'appeler Cap et Bucky, elle va changer de nom, elle va s'appeler Cap et
Elle va s'appeler la cape et l'épée.
Hawkeye. Déjà pris, monsieur, déjà pris dans l'univers Marvel.
Oh, c'est étrange.
Donc Cap et Hawkeye à partir du numéro 629 avec Cullen Bunn au scénario et Alessandro Vitti au dessin. Ce sera un arc en 4 épisodes. Et ensuite, la série changera à nouveau de nom. S'appellera Cap et Iron Man. Et en fait, elle devrait changer de nom comme ça à chaque arc où Cap fera un
Ouais,
team-up.
en fait, c'est toujours Cap et quelqu'un, quoi.
Ce sera, ouais, Cap and. Et voilà. Une sorte de
Et genre
Marvel team-up.
Maïté, Cap et Maïté.
Voilà. Alors, on nous parle peut-être d'un futur arc aussi avec Black Widow. On verra. En tout cas, Alessandro Vitti ne sera pas au dessin d'Iron Man. On ne sait pas encore qui c'est.
Ouais. Ça va pas durer longtemps, je pense, hein, cette série.
Oui, bah, de toute façon, Cap et Hawkeye, quoi. Je veux dire, oh là là, on prépare les Avengers. Le film. Sans déconner. Je suis désolé, ce sont les deux personnages qui sont vraiment mis à l'avant pour le film Avengers, donc forcément. Bref. Quelqu'un a une autre news, peut-être, pour Marvel?
Ben, les 4 milliards de teasers sortis cette semaine pour AVX. Donc je remercie Marvel parce que grâce à eux ça gonfle les infos quand y a rien d'autre. Au moins on a de jolies images.
Ouais, mais c'est vrai que là, ils ont donné pas mal d'infos ces derniers jours avec leur conférence de presse, qui je ne sais plus comment s'appelle, Things for the Future ou Things to
Ou Marvel
Come.
Next Thing.
Ouais, voilà, c'est ça.
Next Big Thing, ouais, ils font toujours ça, ouais.
Donc c'est vrai que là, on a eu quelques news, mais il y a des moments, c'est quand même très calme. Hein. Bon, AVX?
Ouais, bah AVX.
Non, pas de pensée. C'est bien ce que je pensais.
Ma prochaine cause de besoin d'antidépresseurs cette année.
Bah, c'est surtout que le titre de la série aussi, quoi. Ils ont annoncé la mini-série, donc AVX versus. Donc AVX voulant déjà dire Avengers
Avengers
versus
versus X-Men.
X-Men
Déjà tu.
versus. Déjà tu te dis, non mais attends, mais c'est qui les gens qui font les titres, quoi, chez Marvel, honnêtement?
Surtout, moi j'ai adoré Tom Brevoort, l'éditeur des titres Vengeurs, qui dit déjà en entrée de jeu, oui bon mais ça sert à rien.
Super.
Ça m'a éclaté quand je l'ai dit. Ça va
Super.
sûrement se vendre par caisse entière, mais ça sert à rien.
Ouais, c'est bien. Si au moins l'éditeur, un des éditeurs en chef nous le dit clairement que ça sert à rien. Parce que bon, c'est vrai que Tom Brevoort, c'est quand même le numéro 2 chez Marvel. Je pense que si lui dit que ça sert à rien, on peut le croire.
Mais surtout que c'est lui qui va sûrement les éditer, donc
Le
il est
pauvre.
premier au courant.
Le pauvre, quoi. Je suis sûr qu'il attend qu'une chose, c'est qu'Axel Alonso se casse une patte et puisse pas venir au bureau pour que lui puisse prendre des décisions. Ouais, qui se pète une jambe, mais perdu dans les rocheuses où il y aura aucune communication possible.
C'est sa jambe qui est perdue dans les rocheuses et qui peut pas communiquer, mais il s'en fout, lui. Enfin, je veux dire.
Non, mais c'est qu'en fait, Axel Alonso a un pouvoir spécial, il communique avec sa jambe, il a sa bouche qui est sur le genou, en fait.
Ça, il lançait de nouveaux titres Wolverine et Avengers. Ça, c'est notre super pouvoir.
Je crois que ce seront les news les plus longues que l'on aura faites quand même. C'est pour commencer l'année. Hein.
Voilà.
On se remet dans l'ambiance. J'ai une dernière news, je sais pas si vous avez autre chose. Un nouveau Creator Owned par Kirkman et Spencer, qui s'appelle Thief of Thieves. L'histoire d'un voleur, mais vraiment international et super connu, qui décide de prendre sa retraite la veille du jour où il va faire son plus gros coup. Sauf que bien sûr, ça va pas forcément bien se passer puisque ses coéquipiers vont le traquer, il va être traqué par la police. Et...
Bah, y a un autre créateur Ned qui a été annoncé cette semaine, c'est Jupiter Children de Mark Millar et Frank Quitely.
Oui, c'est vrai, je l'avais pas retenu dans les news. Mais parle-nous-en, je t'en prie, Sam.
Voilà, bah, le pitch, c'est dessiné par Frank Quitely. Voilà.
C'est un bon pitch.
Voilà, du coup, je vais aller le lire. Parce que, enfin, le lire, je vais aller le regarder plutôt. Le lire, non, le regarder, oui. Je vais dire, ah, c'est joli, oui. Par contre, le texte, je vais éviter.
Meni, une petite pensée sur.
Sur quoi? Sur.
Sur Fish of Thieves, sur Jupiter's Children.
Alors là, franchement, honnêtement, le pitch m'emballe pas plus que ça. L'équipe créative non plus. Bah, je...
Frank Whitley quand même, eh oh.
Bah, non, enfin, je veux dire, Frank Whitley, oui, d'accord, mais je sais pas, non, enfin, non, pas plus que ça, quoi, écoute. Si
dans la zone fantôme.
Ça, honnêtement, là, honnêtement, tu m'aurais dit un truc, je sais pas, par Straczynski, je ne sais qui, au dessin, Gary Frank, tiens, allez hop, pour ressortir une team classique. Oui, là, tout de suite, je serais allé voir, mais là, honnêtement, non, c'est pas ma priorité d'aller découvrir cette série, quoi.
Donc ce sera en 12 épisodes qu'on aura dans les 10 prochaines années.
Cela dit, si j'ai le temps de lire le premier et que je trouve ça vachement bien, je ne manquerai pas d'en parler, bien sûr.
Bah, surtout que je pense qu'il va aborder un peu le contexte social, surtout. Puisqu'en gros, ça part en France dans les années 20, et c'est des gens qui débarquent, qui font un voyage dans le temps et qui débarquent aujourd'hui aux États-Unis.
Mais tu vois qu'il y a un pitch.
Voilà, et je pense qu'il y aura quand même que Millar essaiera de... renouer un peu avec ses racines un peu sociales, donc peut-être pas plus mal.
C'est bizarre qu'il n'ait pas choisi des Irlandais quand même qui débarquent aux États-Unis.
Ouais.
Bizarre.
Donc, comme ça commence en France, je pense qu'on aura des gens qui
vont dire, oh là là, on fuit ce pays de lâche.
Effectivement, c'est en France, hein, donc sachant que nous ne l'avons jamais, et tout, nous fuyons, mais.
Oui, non. Mais... On verra quel cliché encore va-t-il nous sortir. On verra sûrement des mecs avec des bérets, des baguettes de pain se balader un peu partout.
Non, voilà. Bah c'est clair qu'on va conquérir le monde. On va conquérir le monde grâce à notre puanteur, je pense. C'est-à-dire qu'on va arriver dans des pays, les gens vont fuir tellement on pue, tellement on s'est pas lavé depuis longtemps.
Ouais. On va peut-être expliquer quand même, parce que c'est vrai que certaines personnes ne sont pas au courant, mais la vision des Français à l'étranger, ce sont des gens qui gueulent tout le temps. Des gens lâches et des gens qui ne se lavent pas. Hein.
Gens lâches et qui se lavent pas, je pense pas, honnêtement. Si. D'ailleurs, on se lave
c'est
même beaucoup.
C'est un cliché.
Oui, non, mais on se lave même beaucoup. Non, mais enfin, je pense pas que le cliché soit vrai. Mais par contre, qui gueule. Alors,
écoute, ah oui, non, mais ça, oui.
Français qui gueule dans les files d'attente à l'étranger. Alors ça, c'est un classique. Ça, c'est vrai. C'est pas un cliché, ça.
Le fait qu'on se lave pas revient à l'époque de Louis XIV, quoi, qui prenait un bain par an.
Oui, oui.
Et donc, je sais pas, apparemment, à l'étranger, ils croient encore qu'on est sous Louis XIV. Bon, est-ce qu'ils sont loin de la vérité? Je laisserai point de suspension et chacun. Voilà. Bref. Donc après, c'est cette partie news d'une demi-heure, on va peut-être attaquer les reviews de la semaine.
Les quoi? J'ai pas compris.
on va commencer par celui qu'on a tous lu, le Green Lantern numéro 5. Donc Jeff Jones au scénario, Doug Mankey au dessin, Christian Alamy, Keith Champagne, Tom Nguyen et j'en oublie un à l'ancrage.
Est-ce qu'on s'en fout pas un peu des emplois?
Spécial dédicace à Julien donc.
Merci. Hein. Toi. Je ne suis pas un enfoiré du tout.
Donc c'est la fin
peut-être, mais un enfoiré non.
C'est la fin de l'arc sur Sinestro. Donc la fameuse grosse bataille sur Kerugar.
Qui est expédié en 10 pages.
Ouais. Bah, en même temps, sur 20, c'est pas mal, ça, pour la moitié du comic.
Je sais pas, alors, moi, quand j'ai fini l'épisode, j'ai pensé à Aquaman.
C'est-à-dire?
La manière dont la menace, en fait, s'est expédiée ultra vite.
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu encore le 4.
Bah, le 4,
ah oui,
t'as une montée en puissance, en fait, du titre, comme dans Green Lantern. C'est-à-dire que ça monte peu à peu. Dans tous les épisodes, on te dit, ouais, c'est la super menace de la mort qui tue. Et dans l'épisode 5, pouf, résolution, et les méchants sont vaincus en quelques pages.
Ouais. Hein, Jeff Jones fatigué, donc. Mais en même temps, c'est coutumier hein, du fait chez Jeff Jones. Hein, la menace est rapidement expédiée en général.
Ben, au moins, il mettait les manières, au moins.
Ouais, c'est vrai. Bon, le presque le plus intéressant, c'est quand même ce qui se passe après. C'est-à-dire, puisque bon...
Il se passe un truc.
Voilà, on va pas trop spoiler quand même, mais Voilà, Hal va rentrer sur Terre, Sinestro va retourner sur Oa, et les gardiens... Les gardiens, quoi.
Voilà, gros connard.
Je sais pas ce qu'il essaye de faire avec les gardiens, en fait. Je comprends pas pourquoi il les a changés aussi rapidement.
Là, c'est simple. Hein. À travers tous les titres, d'ailleurs, on voit que les gardiens sont devenus les grands méchants dans Green Lantern.
Ouais, bien sûr.
Dans tout l'univers Green Lantern. Je pense que, d'ailleurs, bientôt, nous n'aurons plus de gardiens. Ça va être autre chose. Ils vont être remplacés par quelque chose.
On n'aura plus de gardiens, je dirais, encore. Parce que, enfin,
oui,
on se rappelle quand même que dans les années 90, à l'époque où Hal était devenu Parallax, il n'y avait plus que Kyle Rayner et il n'y avait plus du tout de gardien, quoi.
Il y avait Gantet.
Il l'a ramené ensuite, mais pendant très longtemps, Kyle a été tout seul, sans gardien, sans rien.
Mais je sais pas, moi, tous les événements en fait qui se mettent en place à la fin de cet épisode, ça me fait penser à la prédiction de Sinestro, enfin, pas de Sinestro, de... Merde, comment il s'appelle ?
De... Oui, sur... Enfin, de...
Le Red Lantern.
Oui, Atrocitus, voilà. Je cherchais le nom, j'arrête ça.
Lors de l'arc, justement, sur les Red Lantern, il faisait une prédiction à Hal Jordan. Sur ce qui allait se passer, je crois que c'était l'épisode...
Bah pendant Secret Origins, non ?
Non, c'était juste après...
Juste après, ouais, l'arc, ouais, ok.
Voilà, quand Sinestro est emprisonné sur Riult, la planète d'Atrocitus, et il est crucifié, et quand Hal Jordan débarque pour faire prisonnier Sinestro, il lui balance une grosse prédiction sur un truc qu'il va faire. Allez le relire l'épisode et lisez cet épisode de si là le 5. Tout d'un coup ça va faire ah oui ça m'a...
Ouh, Jeff Jones se fait vieux.
Ça s'annonce mal. Non, c'est juste que déjà tu vois que le mec a un plan sur long terme.
Oui, enfin ça il nous l'a toujours dit qu'il avait un plan sur le long terme, mais le problème c'est qu'en ce moment il soigne pas le court terme, quoi.
Cela dit, il a dit qu'il avait encore des plans pour les deux années à venir, enfin pour 2012-2013 à peu près. Et faut dire que sur cet épisode, il est bien plus inspiré et il fournit un travail bien plus important que ce qu'il fait à côté sur Aquaman et Justice League. Quoi.
Ah, je suis entièrement d'accord, qu'il y ait même un travail plus important que sur les premiers épisodes de Green Lantern, le relaunch.
Mmh. Oui. Bah, enfin, c'est-à-dire que de toute façon, c'est toujours le même arc. Là, je crois que c'était la dernière partie, c'est une
ouais,
première.
C'était la dernière partie, ouais.
Ça a démarré doucement. Puis surtout, on voyait pas où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait raconter de nouveau. C'était juste un team-up, Hal Jordan, Sinestro, grosso modo.
Mais le truc, c'est qu'on voit qu'il a envie d'utiliser Sinestro depuis très longtemps. Il a toujours eu envie de l'utiliser. Et pourquoi pas nous faire une mini sur Sinestro, quoi ?
Bah, normalement, il devait y en avoir une Secret Origins de Sinestro. Parce qu'il a quand même planté un paquet d'histoires sur le passé de Sinestro un peu partout. Mm. Et ça s'est pas fait.
Ça m'étonnerait pas qu'un jour aussi on ait un Sinestro gardien.
Mm. Ouais.
Non, mais le problème, en fait, de ce premier arc, c'est que l'essentiel du travail que Jones a fait, c'est sur la caractérisation des personnages et leur évolution. Et l'action en elle-même passe quasiment au second plan.
Et vous trouvez pas l'évolution dans ce numéro un peu trop rapide pour les deux personnages ? Parce que c'est vraiment... Bon, Sinestro est un peu mieux géré, mais alors Hal, c'est en une case, quoi. C'est genre... Je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant.
Ça fait quand même 78 épisodes qu'on sait ce qu'il doit faire. Hein.
Voilà, ouais, oui. C'est ça aussi. Oui, c'est qu'il y a... On attend ça depuis tellement longtemps qu'on se dit, ça y est, voilà.
Ouais,
c'est
mais ce que je veux dire, c'est que si encore, parce que il fait ça, enfin, on va pas révéler ce qu'il fait, mais il justifie ça par le fait qu'il est passé près de la mort, etc. Enfin, moi, je l'ai pas senti passer plus près de la mort cette fois-ci que les 80 autres mille fois avant.
La grosse différence, c'est que cette fois-ci, il est dépendant de Sinestro. Donc il est vraiment impuissant, impuissant.
Mais là,
c'est vraiment un sentiment nouveau pour lui.
Pour moi, ça se ressent pas assez, justement. Parce que l'emphase a peut-être été trop mise sur Sinestro.
Oui, sans doute.
Après, bon, voilà, l'évolution, on verra où ça va nous mener. À mon avis, dans 3 mois, c'est oublié déjà. En tout cas, de son côté. Mais on verra, quoi.
Il a dit que le combo Hal Jordan-Sinestro, ça allait quand même durer une bonne année.
Hein. Ah non, je parlais de la décision d'Hal Jordan. Pas du combo, le combo, le combo.
Non, je sais pas. Je pense qu'il va faire durer la chose.
Ouais. On verra. Donc, bilan pour vous.
Bon épisode, je dirais. Un bon premier arc. Dans l'ensemble, finalement. Donc, à lire en TPB, en fait. Puisque le début est chiant comme la pluie.
C'est pareil, pour moi, c'est un truc vraiment qui se lit plutôt en TBB, mais la plupart d'ailleurs c'est terrible, la plupart des premiers arcs des New 52 s'apprécieront bien plus en TPB, je pense. Hein. On a l'impression que tout est conçu, vraiment, pensé pour être en TPB maintenant, et qu'il n'y a plus du tout cette notion de comment dire, on n'arrive plus à garder le lecteur mois après mois sur une série, quoi. Il faut
Ouais.
absolument lire le truc en TPB ou alors ça passe pas. Ou alors on s'emmerde prodigieusement à un certain moment. Il y avait beaucoup de numéros là récemment sur lesquels il se passait strictement rien.
Oui, il y a eu des épisodes 3 et 4 qui étaient vraiment faibles, hein, sur la
C'est ça.
série.
Il y a une grosse baisse, et d'ailleurs ça s'est ressenti dans les ventes. Il y a des séries qui se sont complètement cassées la gueule, même dans les séries principales, Wonder Woman a enregistré une chute phénoménale.
Oui, mais je pense que ça va remonter avec la fin de l'arc qui est très très bonne.
On verra.
Donc, du coup, check it, bye.
Bye.
Oui, bye sur cet épisode, ouais.
Ouais, bah pour moi aussi, hein, bye, bye. Bye pour le trade, quoi.
Et aussi, ouais. Oui,
Même
tout à
si
fait.
les deux premiers épisodes sont. Voilà, quoi, il aurait pu en faire qu'un seul. Allez, on passe à la suite.
Bah moi j'aimerais bien parler du Buffy,
Bah vas-y.
saison 9, épisode 5. Je vais éviter de trop spoiler le contenu, mais disons que l'épisode commence avec Buffy qui en fait rêve de la première tueuse, enfin la première tueuse qui vient visiter gentiment ses rêves et lui balancer des pains. Très gentiment aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Disons qu'il y a deux gros événements dans l'épisode. Un qui concerne Willow et un autre qui concerne Buffy. Et la fin de l'épisode, c'est énorme.
Alors,
C'est...
gros événement, franchement, déjà tu fais un bon indice,
Vraiment, vraiment. Non mais c'est... Voilà, c'est vraiment un épisode à pas rater. Si vous êtes bah, comme moi, fan de Buffy depuis des années, dans l'évolution du personnage, c'est essentiel. Donc ça sera un gros gros bail. C'est surtout une bonne surprise parce que j'avais trouvé que la fin du premier arc, parce que le premier arc était en quatre parties, j'avais trouvé un peu facile, parce que grosso modo, la menace est expédiée en deux pages. Pas top top, donc ça
plus
fait
rapide
plaisir de
que Green
revoir un épisode à
Lantern.
bon niveau.
C'est plus rapide que Green Lantern. Green Lantern, au moins, il y a eu 10 pages.
Voilà, voilà, mais disons que c'était vraiment expédié facilement. Et là, on sent qu'on revient vraiment sur ce qui faisait les bons fondamentaux de la série, c'est-à-dire l'évolution des personnages.
Je ne suis pas d'accord du tout. Je vais t'exprimer mon ressentiment sur Buffy. Non, je plaisante, je connais rien du tout, donc
Ben, il faut t'y
m'excuse
mettre.
pas. Voilà.
Voilà, donc c'est ultra conseillé, c'est un ultra paille. En
Ok.
plus, c'est dessiné par, c'est Andrew Chandlibliss au scénario et Karl Molin au dessin, qui est très très bon là-dessus.
Ok, bah puisque tu parlais de rêve, je vais continuer avec la sortie de Whispers numéro 1, puisque tu m'as fait une transition, tout trouvé, hein, par Joshua Luna, donc un des deux frères Luna, qui est en solo sur cette série. Donc c'est chez Image, hein, bien sûr, les frères Luna restent chez Image. Je vais résumer un petit peu, Sam Weber est un garçon très gentil, hein, mais il a des gros gros tocs. C'est-à-dire que par exemple, tu peux pas toucher. On a une scène au début du comic où il n'arrive pas à rentrer dans un café parce qu'il peut pas prendre à pleine main la poignée qui permet d'ouvrir la porte parce que plein de gens l'ont touché. C'est assez contraignant, quoi, cette maladie. Et son autre problème, parce que c'est pas le seul, hein, c'est d'avoir pendant qu'il dort la nuit, il sort de son corps et va se balader un peu tel un fantôme. Et va voir bah, les gens qui lui sont proches.
Tel un Sandman aussi, non, un peu.
Oui et non. Hein, je dirais que c'est un peu comme Ghost,
Ouais. Ou
mais
Deadman,
ou
Dead
bien.
le
Deadman,
côté.
ouais, voilà. Voilà, bon, là pour le moment en tout cas il ne prend pas possession des gens. Hein. Il va au moins, enfin déjà il va pouvoir les influencer légèrement parce qu'il arrive à entendre leurs pensées et il
Ouais.
arrive à les influencer un petit peu, mais bon il contrôle pas encore très bien ce pouvoir et il le découvre hein, parce que ça vient de lui arriver en fait. Donc, franchement, c'est super sympa. Le concept du héros qui a des tocs, je trouve ça pas novateur parce que bon,
C'est Monk.
voilà, c'est un peu Monk, mais le côté comique un petit peu en moins quand même. Il y a quand même un léger côté satirique qui fait sourire, mais en même temps, on a un peu de la peine pour ce pauvre gars. Et voilà, bon, il y a le côté Monk, il y a le côté un petit peu fantôme, je sors de mon corps, etc. C'est pas novateur, mais c'est bien pensé, je trouve. Après au niveau du dessin, bah, c'est le style des frères Luna hein, qui a un petit peu évolué, mais c'est toujours aussi sympa. Il y a un petit côté un petit peu cartoony, mais en essayant de garder une pointe de réalisme. Bon, moi franchement, j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Alors bien sûr, il va y avoir un petit truc, c'est qu'il va découvrir que une ancienne petite amie à lui va être dans la merde, mais bien. Et bah, il va essayer de l'aider, mais comment faire? Je vous laisse lire le truc. Pour moi, c'est un très gros bail. Si on aime les frères Luna, leurs précédents travaux comme Ultra, comme Girls ou comme The Sword, bah testez celui-ci quoi. Franchement, je pense que vous serez pas déçus. Vous l'avez pas lu hein, je crois.
J'ai pas eu le temps. J'avais pas envie de le lire.
Benny, je sais pas si ça t'intéresse ou pas, non?
Bah si, ça m'intéresse. Le thème des rêves m'intéresse, donc oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas du tout une comment dire, Non, ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue scénaristique, c'est pas du tout sombre, c'est pas très glauque, c'est.
Bah non, c'est pas glauque, quoi. Bon déjà, faut savoir que dans le premier épisode, ça discute pas mal, hein. Il y a beaucoup de discussions. Mais c'est pas glauque, mais c'est pas non plus super enjoué, quoi. Enfin voilà, on sent que le mec a un problème, il se sent pas forcément très bien. On va faire la connaissance de sa mère, qui est un peu dans le même état que lui, mais en pire. Enfin, voilà, quoi, c'est pas tout rose, quoi.
Mmh. D'accord. Si, moi ça m'intéresse. Bon, honnêtement, le pitch m'a interloqué, on va dire. Voilà, m'a captivé. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Ok, on passe à la suite.
Ouais, le Punisher Max 21, qui est donc l'avant-dernier de la série, malheureusement. Jason Aaron est au scénario et Steve Dillon au dessin. Alors, c'est le combat final, au fait, entre le Kaïd et le Punisher. Et c'est un combat vraiment... honnêtement, c'est le meilleur combat que j'ai lu dans un comics entre un héros et sa némésis. Le meilleur combat que j'ai lu depuis, je sais même pas d'ailleurs à quand ça remonte la dernière fight où je me suis dit putain, ça envoie du lourd quoi, c'est génial. Enfin,
c'est le meilleur combat que j'ai lu depuis la semaine dernière.
Non. Oui, la semaine dernière, c'était le Mickey Mouse contre Batman, c'était vraiment pas mal. Non mais par contre là c'est génial quoi. Honnêtement, les répliques sont cultes et puis même, enfin je veux dire c'est super bien écrit par un Jason Aaron tellement inspiré que à la lecture de ce numéro là, alors c'est peut-être parce que Steve Dillon est au dessin, du coup ça m'a fait penser à ça, mais à la lecture de ce numéro, je me suis dit ah putain c'est toujours aussi bon Garceny sur le Punisher quand même. Et j'en avais même oublié que c'était plus Garcenis, que c'était Jason Aaron quoi, qui faisait le Punisher. Donc il a vraiment dépassé le maître, j'allais dire. Parce que pour moi, il n'y avait pas au-dessus de Garcenis sur ce personnage-là. Et honnêtement, c'est génial. Et quel dommage que ça s'arrête, cette série, quoi. Parce que c'est... je veux dire, les personnages sont écrits avec une psychologie, mais super... Enfin, c'est super juste quoi, je veux dire voilà, c'est vachement, c'est super prenant, voilà, c'est super prenant, on se met vraiment à sa place, pourtant se mettre à la place du Punisher quand même faut le faire quoi.
Mais c'est marrant parce que enfin moi au début de la série, bon comme on en parlait avant l'émission, mais je lis ça au rythme de parution français, et pour les deux premiers arcs en tout cas l'accent était plus mis sur le Kingpin dans le premier arc, Bullseye dans le deuxième, et très peu sur le Punisher ouais, était ouais. Presque accessoire en fait.
Là, c'est totalement mis. L'accent est totalement mis sur le Punisher, et vraiment, enfin voilà, il prend une dimension mais extraordinaire. Et du coup, de se dire que ce titre avec cette incarnation-là du Punisher va s'arrêter, quel gâchis. Enfin voilà,
c'est dommage. C'est peut-être pas plus mal. Ça en fera un run classique et pas trop long, et ça s'arrêtera avant de devenir mauvais et de s'arrêter parce que ça se vend plus ou parce que c'est pourri, quoi. Des fois, c'est pas plus mal que ça s'arrête quand c'est bien, plutôt que ça s'arrête quand on dit il était grand temps que ça s'arrête parce que c'était vraiment à chier.
Ouais. En tout cas, je conseille vivement à tous les gens qui même ne sont pas forcément fans de Punisher de découvrir cette série, donc qui sera au total en 22 épisodes, le Punisher Max par Jason Aaron et Steve Dillon, qui est monstrueux. Enfin, c'est excellent. C'est vraiment excellent comme comics. Alors, c'est gore, c'est super violent. Donc bon, c'est
en même temps, on est dans la gamme max, quoi. Je veux dire, voilà. On sait à quoi s'attendre.
La gamme max, c'est pas non plus pour de jeunes lecteurs. C'est clair et net. Même moi, quelquefois, ça me choque certains passages. On est limite dans la violence d'un Walking Dead, quoi. D'accord. Un peu plus kitsch quand même. Donc ça dédramatise parce qu'on se dit ouais, c'est pas possible. Là, d'ailleurs, Frank Castle, il s'en prend tellement dans la gueule que tu te dis c'est un mort-vivant le mec.
C'était déjà le cas dans les premiers arcs. Hein.
Là, c'est Terminator. C'est
Eh bien, écoute, Arnold, si tu nous entends, pour une prochaine adaptation du Punisher, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Mais ce serait marrant de le voir en Punisher, mais bon... Je sais pas. Ce serait drôle, mais voilà, ça s'arrêterait là. Je sais pas si ce serait très convaincant. Toujours est-il que c'est un absolute buy, il faut découvrir cette série, elle est excellente. Pour moi, c'est ce qu'a fait de meilleur Jason Aaron récemment, et même peut-être de... Depuis que je le lis, quoi, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. Mieux que X-Men, Wolverine and the X-Men, je trouve. Puis alors, large.
Dans un ton différent, de toute façon.
Ah, oui, totalement. Bien sûr.
Donc un mégabyte.
Ouais.
Et donc tu nous as fait une transition toute trouvée pour Wolverine et X-Men pour Sam.
La série.
Il vient d'orgasmer, ça y est.
Ah non, non, mais quatrième épisode de la série, Jason Aaron au scénario, Nick Bradshaw au dessin, et c'est une putain de génialissime tuerie.
Non mais alors attends, parce qu'on pourrait penser que je n'aime pas, c'est très bon, hein, Wolverine and the X-Men. Mm. Je voulais pas dire que c'était mauvais non plus.
Bon. Ah non, non, mais j'ai compris, mais c'est juste que Punisher est tellement génial que...
Ouais, ouais.
Voilà, t'as pris...
Ah, pour moi, oui, oui, bien sûr.
Je pense que tu as pris un pied intégral à lui.
Ouais, ouais.
Et bah en fait j'ai rien à dire sur Punisher Max parce que je l'ai pas encore tenté. Je sais qu'il faut que je le lise. C'est juste que j'ai plus un rond. Donc voilà, donc, c'est sur la liste. Je rassure tout le monde.
C'est con, les soldes, c'est pas pour les bouquins, c'est plus pour les fringues.
Ouais.
Dommage.
Donc Wolverine and the X-Men, bon j'en ai fait un token, je vais pas revenir sur le truc. Disons que c'est bien délirant. C'est absolument bien délirant, c'est-à-dire que Jason Aaron continue avec cette veine où grosso modo il met 50 idées par page.
Mais
50 moi, histoires, 50 trucs.
J'ai pas encore lu le 4. Hein. Je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé ça trop facile. Alors j'ai adoré l'idée de la fin de l'arc du 3 avec Wolverine qui va se venger du Hellfire Club de façon légale. Ça j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait rire. Mais par contre, le fait que Krakoa se rejoigne l'équipe et tout, enfin, je trouvais ça un peu facile, quoi.
Non, moi non, j'ai adoré. Disons que déjà dans l'épisode, on prend en compte les conséquences de Uncanny X-Force. Donc si t'as lu, je sais pas si t'as lu Uncanny X-Force 18 et 19.
Je suis au 17.
Oh, t'as pas encore lu le meilleur épisode. Ah bah après le podcast, faut que tu ailles lire le 18. Parce que je le dis tout de suite. J'étais pas convaincu par le boulot de Remender jusque là, mais alors le 18 ça m'a assis par terre.
Et moi cet arc me tue quoi, donc j'attends.
Bah disons que le 18 est bien meilleur que tout ce qui vient avant.
Ah, putain, c'était déjà bon. Voilà. J'ai eu un épisode qui m'a un peu fait chier, je crois que c'était le
donc,
15 ou le 16.
Non mais surtout il va falloir que tu dises le Uncanny X-Force avant le Wolverine and the X-Men.
D'accord.
Parce que justement t'as un peu la résolution de ce qui se passe dedans. Bah disons que je vais donc me concentrer sur un seul des passages de l'épisode, où grosso modo tu as 10 Locke qui vient dans le cours de l'histoire future. Puisque dans l'académie, sur l'histoire future, c'est complètement délirant.
Ça, c'est très fort, ça.
Et en fait, Dislock, qui, grâce à son programme, peut y mettre des hypothèses sur l'avenir de chacun, te balance des probabilités sur ce que va devenir chacun. Donc, t'en as un qui a 50% de chance de devenir mauvais, 50% de chance de devenir bon. L'un qui a 50% de chance de crever dans la semaine qui vient ou de mourir à 97 ans. Enfin, c'est...
Alors ça, c'est toujours
drôle.
Ça m'a
donné envie
quoi,
de le
en
lire
fait,
quand même.
C'est très drôle, c'est bourré d'idées, on prend un plaisir monstre à lire ça.
Mais en alors France... j'ai envie de te poser quand même une question parce que à la lecture du premier arc qui était finalement en 3 épisodes, est-ce que il y a quand même un thème général qui se dégage parce que on a l'impression que tous les épisodes sont un petit peu comiques mais il y a pas vraiment de grosses comment
dire. Il y en a justement dans cet épisode.
Ah d'accord, OK.
Justement en lien avec ce qui se passe dans Uncanny X-Force.
Et alors oui, si aussi. Est-ce qu'on voit encore les Razmoquettes?
Oui.
Bah,
non,
toute façon,
ils sont évoqués.
De toute façon, ça va être vraiment les
modo, ils trouvent les cours de combat de Wolverine.
D'accord.
Et notamment son stock d'armes. Et à un moment, il y a une réplique de Kitty Pryde qui espère qu'ils ne tomberont pas sur l'autre collection de Wolverine.
Ouais, ça laisse sous-entendre beaucoup de choses. Bah, salaud, tu m'as donné envie de lire maintenant. Hein, c'est malin, ça.
Donc, mais attention, Uncanny X-Force avant.
Ouais, ok. Bon bah c'est bien, tu préviens aussi les auditeurs, c'est pas plus mal. Donc un mégabyte j'imagine.
Oui.
Ok. Le Incredible Hulk numéro 4 par Jason Aaron, on va rester sur lui, hein. On va faire la triplette Jason Aaron. Wells Portacy au dessin, Alan Martinez et Eric Ketcham à l'ancrage. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi l'a lu?
Non, c'est de la merde.
Non, Benny tu l'as pas lu?
Plus non plus. Non.
Bon alors, c'est nouvel arc. Parce que le premier arc était en 3 là aussi, et Hulk va débarquer sur l'île de Banner pour régler les comptes. Bon, c'est une grosse baston avec plein de monstres à la Hulk, et on a un Banner, mais alors qui est dans un état, il est totalement fou, mais vraiment totalement fou, puisqu'il cherchait à refaire ses expériences pour redevenir Hulk finalement, mais apparemment sans succès. Ou est-ce que ce serait peut-être qu'apparemment? Bref, bon, la rencontre se passe pas forcément très bien, vous imaginez. Pour moi, j'ai du mal, quoi. J'arrive pas à le situer entre le check-it et le bail, quoi. C'est sympa. Par contre, je trouve que World Sportatio, il y a des moments sur certaines pages, il est pas toujours très très régulier. À certains moments, il va faire un joli Hulk, et à un moment, il va faire un Hulk avec une tronche très simiesque. Petit manque de régularité qui est désagréable. Bon, dans l'ensemble, comme je dis, entre un check-it et un bail, je suis assez partagé, quoi.
Pour moi, la lecture des 3 premiers épisodes, ça ne tout passe, hein, franchement.
Bah c'est voilà, c'est bourrin, c'est juste voilà, c'est sympa parce que c'est bourrin en fait. C'est ça qui est plaisant.
Aucun intérêt pour moi.
Ok,
Et ouais.
oui,
Oui,
pardon,
non, je voulais
excuse-moi.
juste te dire que j'ai pas lu le 4, mais par contre, j'avais lu les 3 premiers. Les 2 premiers, j'ai vraiment aimé. Le 3, je trouvais que c'était assez lent, il se passait pas grand-chose. Mais honnêtement, sur l'ensemble, j'aime plutôt bien ce que fait Jason Aaron pour le moment sur Incredible Hulk. C'était pas
Ah,
gagné,
je
mais en
déteste.
face.
Je déteste vraiment, c'est à chier.
Et j'en ai
Mais
discuté avec d'autres personnes qui aiment aussi beaucoup. Voilà.
Mais moi j'attends qu'une chose, c'est que on se débarrasse de cette histoire avec Banner, parce que ça peut pas durer éternellement. Il peut pas être face à Banner tous les épisodes, quoi. Genre, ça fait déjà 4 épisodes, on entame un nouvel arc qui s'appelle Hulk versus Banner de toute façon. Donc voilà, je pense que ça va être encore en 3.
Bah, l'arc suivant, ça sera Banner vs Hulk.
Ouais, non, mais c'est lourd, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est lourd. Disons que moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on ait Hulk qui maintenant est bien un petit peu à l'époque quand il était fusionné. Bah, qu'on nous laisse Hulk un petit peu seul et qu'il fasse autre chose. Voilà. C'est, moi j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de cette histoire avec Banner, quoi, parce que là le personnage de Banner est devenu exécrable, quoi.
Ouais, bah moi j'aime bien la situation actuelle, je sais pas, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Enfin bon.
Oui, bah on
Je suis
verra,
assez
quoi.
conquis.
Ce que j'ai peur, c'est qu'une fois que la menace de Banner sera disparue, puisqu'on nous l'a tellement imposé au départ, bah la série perd un peu son intérêt. Alors je fais confiance à quand même à Jason Aaron pour renouveler le truc, mais. Est-ce que voilà, on va pas avoir un certain moment qu'il aurait peut-être fallu étaler cette confrontation pour un peu plus tard? Je sais pas. Bref, on continue.
Ok, donc parlons de Danny alors.
De Danny.
Danny Bryant.
Ouh, humour van, attention!
Voilà, 2012, toujours la vanne au top sur Comics Weekly. Donc oui, alors que dire? Brian Michael Bendis est au scénario et Mark Bagley est au dessin.
Oui, et surtout. Joe Rubinstein est à l'ancrage, surtout
Ouais,
pour ce
ah
numéro-là.
tu penses que c'est pour ça? Parce que
Ah oui.
effectivement, Mark Bagley, là c'est Mark Bagley, comme on
Mark
dit.
Bacley, oui, c'était.
Mais comme certains le disent, effectivement, c'est pas terrible du tout,
Ah
hein.
non, mais
Les visages sont moches.
le premier numéro était juste un supplice pour les yeux, quoi.
Eh ben, le deuxième, c'est pire.
Ah moi je
Bah,
trouve
le
que non,
premier
je trouve
numéro
que
est un
c'est mieux.
supplice au cours, hein.
Le deuxième numéro est mieux parce qu'il y a un ancrage. Je le trouvais quand même nettement meilleur là que
Ouais,
sur le premier, quoi.
ah bah alors, c'est Mark Bagley peut-être qui a foiré ses visages, qui a dessiné trop vite, parce que les visages sont complètement déformés par moments.
En même temps, c'est, enfin, je veux dire, Joe Rubinstein est un encreur qui a une certaine cadence et va assez vite, quoi.
Ouais, mais bon, enfin, voilà. Niveau graphique, j'ai été vraiment déçu de Mark Bagley sur le coup. Niveau scénario, bah c'est simple, c'est le premier en plus long et en plus
C'est possible.
chiant. Je comprends pas. Le scénario est intéressant, enfin le pitch de base est intéressant. On a envie
Alors
que
qu'il y a un
ça
pitch.
avance. Et il ne se passe rien. Il passe 1 heure, par exemple, sur la première scène pour montrer que le gars, effectivement, avec son pouvoir, il arrive à faire bouger la boule. Mais on s'en fout, on va
La
pas passer des
décompression
semaines
à la
dessus.
Bendis. C'est la décompression à la
Oui,
Bendis.
tant pis, il y a ça. Alors, tu te dis, ok, d'accord, tu vois ses pouvoirs, t'es content. Mais après, toute la seconde partie, c'est que de la parlotte inutile, de trucs que tu sais déjà. Et ça n'avance pas du tout. Je suis incapable de me rappeler la fin du comic,
Ah bah
tant.
si, la fin, si, c'est que le FBI s'en mêle.
Ah oui, c'est vrai. Oui, enfin voilà. Il y a ce personnage dont je n'ai strictement rien à foutre, qui va sans doute être le flic, qui va les chasser partout. C'est comme par hasard, il n'y aura que lui qui sera suffisamment intelligent pour demander la caméra de sécurité pour les identifier. Tu sais, il en fallait un. Hein. Il fallait que ce soit le super agent du FBI qui fait il n'y aurait pas une caméra de sécurité pour voir quand même la tronche qu'ils ont? Oh, quelle bonne idée, monsieur, je vais vous la chercher tout de suite. Donc. Bon, c'est pas exactement ça les dialogues, hein. Je schématise, c'est du Bendis, donc il y a
On
juste
comprend
une
l'esprit.
dernière question, parce que
Donc
sinon c'était trop.
en fait, c'est ça le dialogue, mais sur 3 pages.
Non,
Oui!
je te refais le dialogue. Il n'y aurait pas des caméras de sécurité? Des
Des
caméras de
caméras.
sécurité? Oui, des caméras de sécurité dans le casino. Ah, c'est vrai, on a des
Dans le
caméras de
casino, des
sécurité dans le
caméras de sécurité.
casino. Eh ben, allez me chercher les bandes. Ah oui, je vais aller vous chercher les bandes tout de suite.
Des bandes, attendez, faut que j'aille les chercher. Mais avant, il faut que je demande au directeur. Le directeur, comment il s'appelle?
Non mais attends. Le mieux c'est. Allez me chercher la bande des caméras de sécurité. Et puis t'as quelqu'un qui dit des caméras de sécurité pour interrogation. Bah oui, des caméras de sécurité. C'est pour faire du remplissage. À chaque fois, il repose les mêmes questions. Tu vois, par exemple, il dit, je mangerais bien une pizza. Puis t'as un personnage qui fait une pizza? Oui,
sûr?
une pizza. T'es sûr? Absolument. D'accord, alors va pour la
À quoi
pizza.
tu la veux ta pizza?
Non mais on schématise, mais c'est quand même relativement ça. Et en même temps, c'est un, il y a un côté fun à lire ça, mais
Il y a
c'est vrai
10 ans.
que, bon, voilà, les ficelles sont usées maintenant.
Il y a 10 ans, c'était fun à lire. C'était nouveau. Maintenant, franchement, c'est chiant.
Voilà. Non, alors, par contre, personne n'a parlé du gros point noir quand même. Je pensais que quelqu'un l'aborderait, mais non, je vais faire mon chieur.
Bah, je sais pas, j'ai peut-être oublié, vas-y.
6 mois d'attente pour ce numéro 2, qui était
Oui!
censé sortir au bout de 2 mois quand même. Alors,
Exact, exact,
on
exact.
nous
Ça
a
fait si
prétexté
longtemps?
un... Oui,
Ça me
oui, oui.
semblait long,
Parce
mais
que
pas à ce point-là.
le premier numéro est sorti en août.
Ah oui.
Déjà, il était censé sortir en juillet, il est sorti en août.
Ouais.
Donc le suivant devait sortir au bout de 2 mois, puisque la série de Bendis en Creator Own sort toutes les 2 mois en alternance.
Oui, en fait,
Et
sortez
donc,
avant, en alternance.
il est sorti que cette semaine. 4 mois d'attente pour ça. Il y a un problème quand même. Alors ça fonctionne, ça se laisse lire quand même. C'est pas au milieu du comic en disant putain, quand c'est que j'arrive au bout. Enfin, c'est relativement fluide. Bon, c'est de l'écriture à la Bendis, on est habitué aujourd'hui. Mais 4 mois d'attente pour ça, c'est inadmissible.
Bon,
Surtout
ça
que
va, c'est pas pire que Powers, hein. Je signale que ça fait un an
ah
qu'on
oui,
attend la
mais
suite, hein.
j'allais y venir. Powers justement, Powers parlons-en. Le numéro 7 qui était prévu pour juin 2010 est sorti en mars 2011.
Et on
Il n'y a pas
attend
de
toujours la
problème.
suite.
Et le numéro 8 serait prévu pour février 2012. Donc Powers est une série annuelle. Voilà.
C'est pire que pendant le second volume où ils avaient complètement lâché le truc, où ils avaient sorti, je crois, 3-4 épisodes par an.
Non mais
Mais
c'est inadmissible qu'on fasse confiance à un mec comme ça qui n'est pas capable de tenir les délais. Qu'on arrête de lui filer des séries Avengers, qu'il se casse. De toute façon, on l'a dit depuis longtemps qu'il devait se partir, mais qu'il se barre. Et là, tu nous apprends tout à l'heure que, en fait, finalement, il a peut-être encore des scénars pour pouvoir tenir assez longtemps pour... Non, et c'est bon, quoi. Le mec veut finir la fin du monde en étant sur Avengers, mais qui s'occupe de ses séries en Creator Own, quoi. Je trouve que c'est un vrai manque de respect pour les lecteurs.
surtout c'est du gâchis, parce que le mec est bien meilleur sur ses séries Creator Own que sur les Vengeurs.
Bien sûr. Donc pour moi, ce sera un putain de gros pass et attendez le TPB. Tant pis, ne supportez pas l'industrie ou franchement, je veux le dire clairement, téléchargez-le. Téléchargez-le. Ne supportez pas un comic qui arrive autant en retard.
C'est un petit peu le problème de tous les grands créateurs comme ça, comme Mark Millar, qui d'ailleurs, est-ce que le dernier supérieur est sorti? Je pense pas.
Non, pas encore. Il est prévu pour ce mois-ci.
D'accord, ok,
Il
donc
était
c'est
prévu
prévu, il n'y a pas de
pour
retard.
janvier, hein, de toute façon.
Ouais, d'accord, ok. Mais enfin voilà, c'est tout le problème. Encore Mark Millar, ça va encore, puisqu'il s'attelle uniquement à maintenant à ses propres créations. Mais s'il était sur des séries Marvel et DC comme Bendis, enfin Marvel en l'occurrence, voilà, bah, n'en pas douter, on aurait encore des retards monstrueux, quoi.
Qu'on ait un retard d'un mois, voire 2 mois. Déjà, 2 mois, ça fait beaucoup. Un retard d'un mois, c'est du creator owned, les mecs sont sur leur propre fric, etc. Ok. Des petits créateurs, ok. Des mecs comme Bendis, non. Je suis
Mais de
désolé,
toute
non.
façon, ils ont une affiche avec le comment dire une échelle où c'est marqué un retard de 2 mois, c'est du Bendis. Un retard d'un an, c'est je sais pas,
C'est Warren Ellis et
c'est du Warren Ellis, et un retard
Brian
de 10 ans, c'est du Rob Liefeld.
Tarik. Non mais regardez par exemple, je vais repartir sur cet exemple, Infinite Vacation quoi. C'est quand la suite? Est-ce qu'il y aura une suite d'ailleurs?
Il est parti en vacances.
Mais quoi en vacances de façon indéfinie, hein?
Oui, ouais, c'est ça.
Non mais voilà, enfin, comment peut-on, enfin, on nous demande de supporter l'industrie, d'acheter les comics, etc., d'acheter les singles parce que l'écriture en trade fait que les gens attendent le trade, mais que si on n'achète pas les singles, ben, l'industrie se casse la gueule. Mais comment peut-on vouloir supporter l'industrie quand on voit ça? Pour moi, gros pass, ne supportez pas cette série, je suis désolé de dire ça comme ça, mais attendez le trade. De toute façon, c'est Bendis, il a du fric, il continuera de le publier. Après, votre note, hein, comme vous voulez.
Non, mais moi je l'ai pas lu, hein. Le 1 m'a suffi. Dès que j'ai lu 1, j'ai compris que c'était de la merde.
Bon, je pense que Bunny va nous dire un pass aussi, vu ce qu'il en a dit tout à l'heure.
Je pense que là, faut vraiment attendre le TPB et voir ce que ça donne. Mais dans l'état actuel, les dessins sont décevants, le scénario aussi, ça avance pas. Voilà, il suffisait de lire le premier, on en est au même point. Donc celui-là, pour moi, c'est un pass, ce numéro 2.
Panini nous annonçait Brilliant pour avril ou mai, je sais plus, avec les 4 premiers épisodes. Bon bah je crois qu'il va y avoir du retard. Hein. Là je pense que faut pas compter dessus pour la VF avant au moins la fin d'année prochaine, enfin la fin de cette année
Ouais.
pardon. Bref, on passe à la suite.
Ben, un titre que tout le monde encense et que moi je peux pas encadrer, Batwoman, de JL Soul M3. Série, franchement je comprends pas. C'est... Le scénario est pas mauvais. Le dessin de GM sous As3, bah bon, on connaît tous, hein, donc c'est très bien. Mais je n'accroche absolument pas à la série. Ah, c'est une catastrophe, hein, franchement.
Ah, tu regrettes Greg Rucka.
Oui. donc en fait, on a les deux intrigues là qui étaient lancées depuis le premier épisode avec la femme, l'espèce de fantôme qui a enlevé des enfants et l'agent Chase et Mr. Bone qui voulaient faire des choses à Batwoman.
C'est-à-dire des choses.
C'était pas précisé. Mais
d'accord,
disons...
parce que moi je dois l'avouer, je n'ai pas suivi du tout cette série.
Bah,
ça m'intéresse
on
pas.
On savait pas s'il voulait pas l'emprisonner ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas précisé, mais on sentait bien que c'était pas dans son intérêt, on va dire. Et ouais, c'est la première intrigue avec la femme fantôme est résolue en 5 pages de manière assez ridicule, je trouve. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et l'autre, oui, ça peut être intéressant, mais okay. c'est le pire, c'est que c'est pas ce scénario sur le papier n'est pas mauvais.
C'est l'exécution.
Voilà, l'exécution et le manque d'intérêt total que j'arrive pas du tout à apporter un quelconque intérêt à la série. C'est triste à dire, parce que j'avais vraiment adoré Elegy. Mais alors là, voilà, je pense que c'est vraiment un lire à TBB, là. Hein.
Ok.
Intérêt de voir les critiques sur le net qui nous disent que c'est un chef-d'œuvre, que c'est la 7e merveille du monde. Non, c'est sympathique, au mieux, ça se laisse lire, mais... Je peux aller décerner une médaille au dessinateur pour ça. Hein.
Non, moi de toute façon ça m'a jamais intéressé, donc voilà, je vais pas te dire oh là là mais si c'est vachement bien, non. Je te laisserai discuter avec Jean-Loup pour ça. donc un check-it bypass.
Check-it est peut-être un bail en TPB. Pour voir si ça se tient en TPB.
Ok. Je vais retourner chez Image avec The Strange Talent of Luther Strode numéro 4 sur 6, une série de Justin Jordan et Trad Moore au dessin et à l'ancrage. Alors, c'est une mini en 6, hein, comme je le disais. C'est l'histoire d'un... Alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette pub dans les vieux comics où t'avais un gars tout maigrichon
oui,
sur la plage
ouais,
et qui se faisait savater par un gros balèze qui lui piquait sa meuf et par des cours qu'il prenait à distance.
Ah non, alors là, pas du tout, non. Alors, je te dis oui, bien sûr, parce que je pensais que t'allais dire cette pub dans les vieux comics où tu voyais un gars tout queuse, et genre, c'était marqué acheter tel produit, vous allez devenir super
voilà,
baraque.
Voilà, c'était des cours à distance, en fait, et tu devenais super baraque, et après, donc c'était fait sous forme de petite BD, et après, le mec revenait tout baraque et cassait la gueule au mec qui lui avait jeté du sable sur la tête et qui avait piqué sa copine, et il récupérait sa meuf.
Ah d'accord, donc alors, attends, faudrait quand même récapituler pour les gens qui nous écoutent, donc, pour piquer la copine de Steve, faut lui balancer du sable sur la tête.
Ah, mais c'est
une info qu'il faut retenir, notez tous. Ça, c'est quand même mémorable. Donc,
c'est
le sable sur la tête, c'est pas dans les yeux d'ailleurs, c'est juste
oui,
sur la
enfin,
tête. C'est comme faut chasser les mauvais esprits avec du sel, toi on te fout du sable sur la tête et hop, ta copine disparaît.
Même parce que je ne supporte pas la plage.
D'accord. Donc, Claire va disparaître si on te met du sable sur la tête. On fera l'expérience à une prochaine convention.
Donc du coup, en fait, le pitch de cette histoire, c'est et si ces cours à distance là marchaient ? L'histoire d'un gars qui est un peu un geek, quoi, le mec pas trop, enfin c'est maigrichon à lunettes, le truc, le mec comme on l'imagine, quoi, qui commande des cours de musculature à distance, reçoit ce bouquin et le truc
il
c'est
reçoit
que ça
un
marche.
Truc pour allonger
ça marche vraiment super bien, c'est-à-dire que le mec devient super balèze, limite avec des super pouvoirs, quoi, il bouge plus vite, il est vraiment plus fort, il peut arracher des têtes avec un coup de poing. Voilà. Bon, en plus, ce gamin a quand même un passif assez lourd puisque son père le battait sa mère, etc. Il est en tôle. Maintenant, il est sorti et eux essayent de lui échapper. Donc voilà, c'est pas non plus une vie tout rose qu'il a, ce gars.
Mais dans ce monde-là, on ne sait pas s'il y a d'autres personnes qui utilisent ce procédé.
Ah bah, c'est justement l'intérêt, quoi. C'est que on se rend compte petit à petit qu'il y a une espèce d'organisation derrière tout ça, un mec qui se fait appeler le bibliothécaire, qui apparemment...
Ils ont toujours des noms à la con, j'ai remarqué.
Ouais, mais...
Le bibliothécaire
de librarian, en fait. Mais voilà, c'est comme
et
ça.
Et c'est pas le nom d'origine que voulait donner Jerry Conway à l'Anti-Monitor?
Ah, peut-être.
J'avais lu ça dans une préface qu'il avait fait quand il avait... Parce qu'en fait, il avait imaginé le personnage quand il était gosse, et dans son esprit, il l'avait donné le librarian.
Ah ouais. Je savais pas, tiens, je connaissais
ce
pas.
C'est logique, ouais, pour classer un petit peu tout ça. Mmh. Surtout qu'il faudrait plus d'une librairie hein, pour classer Riverdale.
Ou alors une très grande librairie.
Ouais, le truc, la librairie à New York, là, je sais plus comment elle s'appelle.
Bah, tu vois Warehouse 13, c'est à peu près ça.
Voilà.
Si personne n'a vu la série...
C'est... Non, si, je vois, ouais. Je vois. Je la suis pas, mais je vois quand même comment c'est. Ouais.
Bah tu devrais, c'est une très bonne série.
Ouais. Et j'ai un petit peu lâché tout ce qui est série.
Eh bien, on va te casser les deux jambes. Comme ça, oui, tu seras obligé de rester chez toi.
On met pas du sable sur ma tête, je veux bien.
Bref, bon, du coup, je vais revenir quand même à mon histoire. Là, dans ce numéro 4, on en prend un petit peu plus sur les origines de ce manuel. Le personnage principal va être mis face à un choix, puisque sa famille va être menacée. Ce fameux librarian lui demandant expressément de travailler pour lui, sinon, trois petits points. Voilà. Franchement, moi, je trouve ça super fun. Les dessins, c'est assez cartoony, un petit peu l'ambiance qu'on a dans les autres séries Image, du type Invincible, du type Stony Wolfman et compagnie, tu vois, un truc, ouais, cartoony, quoi. Mais ça reste sympa. Alors, il y a quelques passages gore, bien évidemment, hein, des têtes éclatées par des coups de savate, des bras qui passent à travers des corps, ce genre de choses. Mais le côté cartoony fait que ça reste relativement supportable. Donc pour moi c'est un gros bail, j'aime beaucoup cette mini et franchement si vous l'avez raté, attendez le TPB et jetez-vous dessus, c'est vraiment super fun. Ah, c'est pas le truc qui va révolutionner l'industrie du comic, mais c'est fun et on passe un bon moment à lire ça. Donc j'avais envie d'en parler cette semaine.
Et donc tu l'as fait, tu as réalisé ton rêve petit, c'est bien.
Oui, je suis très fier. Sam, un petit dernier?
Non, là j'ai fait le tour.
Ah bon?
Ouais.
Déjà, j'ai envie de dire, ça fait 1h30.
Il en reste un seul, hein, dont on n'a pas parlé, le Scarlet Spider, donc je vais faire très vite, parce que je suis le seul à l'avoir lu.
Du calme, prends ton temps, nous allons commenter avec trucs super passionnants, tu vas voir.
Chrissy Hosto au scénario, Ryan Stegman au dessin, Michael Babinski à l'ancrage. Donc l'histoire, c'est que Kane est en fuite à travers les États-Unis pour s'échapper après les événements de Spider Island. Et là, il se retrouve à Houston, qui est une étape pour lui sur la route du Mexique.
Et il a un problème.
Et il va tomber
parce
sur...
Parce que Houston, nous avons un problème. Merci pour la blague. Merci Steve, merci Sam pour ce soutien.
Mais écoute, je t'envoie tout mon soutien à distance. Voilà, je peux pas
comme,
faire mieux.
Comme Houston.
Il va se retrouver face à un espèce de trafic humain. Profiter pour récupérer quelques dollars au passage.
Et non un trafic aérien.
Et donc il doit surtout faire face à sa nouvelle condition de personnage dans un corps correct, pas bousillé par des cicatrices, etc.
Donc, il peut faire pipi tout droit maintenant.
S'offre à lui une nouvelle vie, mais il a toujours les cicatrices du passé, mais en tout cas elles sont intérieures cette fois-ci. Donc voilà, moi franchement j'ai bien aimé, c'est très 90s dans l'esprit. Il y a un traitement super cinématographique. Vous regardez la scène d'intro, c'est véritablement le début d'un film. On a une première page par exemple où on a quatre cases tout en hauteur de page, quoi. C'est-à-dire qu'ils partent du haut jusqu'en bas de la page. On voit la scène et à chaque fois en bas on voit écrit Marvel Production, telle personne éditeur en chef, telle personne. Enfin, c'est vraiment un film et toute cette scène d'intro se termine par la page où on a le titre avec écrit en gros le nom du scénariste, le nom du dessinateur. C'est vraiment bien foutu. Il y a toujours cet aspect cinématographique tout au long du comic, mais ça fonctionne bien.
D'ailleurs, pour que ça fasse encore plus 80s, comme tu dis,
90s,
ouais. Oui, pardon, 90s, en plus c'est moi qui me trompe, ils vont d'ailleurs débarquer Rob Liefeld, Doc and Dove, pour qu'ils viennent travailler sur Scarlet Spider. C'est quand même la meilleure nouvelle
non.
de la semaine.
Pitié, non. Mais non, franchement, moi j'ai vraiment passé un bon moment à le lire, et en plus c'est Chrissios au scénario, et ça change d'un Dan Slott, d'un Mark Waid, ou de toute cette équipe qu'on avait, le Spider Brain Trust ces dernières années. Là, c'est quelqu'un d'assez nouveau qui arrive sur le titre. Et non, c'est cool, quoi. Il y a un bon parfum des années 90. Ça fait un peu penser à Lost Years, la mini-série de Spider-Man des années 90, hein, sur le clone.
Qui était excellente. Mais moi, ce qui me dérange quand même, c'est ce côté, effectivement, Kane, c'est un petit peu devenu Ben Reilly. Parce que Kane, quand même, avant, c'était un tueur sanguinaire. Le mec pétait les plombs au quart de tour et égorgeait des gens.
C'est adressé dans la série.
D'accord, quand même.
Ce truc-là. Mmh. Donc... Non, franchement, en plus on peut faire confiance à Chrissios, il va pas oublier des détails en chemin. C'est quand même un mec qui maîtrise relativement bien la
continuité. C'est vrai que c'est rassurant. Ce qu'il avait fait sur X-Force, c'était bien.
Donc, non franchement. si,
c'était très non. bien.
Deux contre c'était... un, on gagne.
Voilà.
Non, mais moi, ma voix compte beaucoup plus, donc.
Non, franchement, c'est une bonne surprise, j'en attendais pas grand-chose, et j'ai été vraiment surpris en bien. Donc pour moi, c'est un bon bail. Et puis alors, qui a aimé le Scarlet Spider des années 90? Bah, c'est un autre Scarlet Spider, mais ça vaut le coup de le découvrir. Bon bah voilà, on a fait le tour.
Ouais.
Oui, mais Steve, t'es un grand fan de Spider-Man, donc c'est vrai que tu te laisses peut-être un petit peu trop
Non mais
influencer.
je dois avouer que j'ai un souffle nouveau pour Spider-Man depuis bah, l'arrivée de Dan Slott sur le titre en scénariste solo. Je trouve que c'est plutôt fun.
Alors
Moi
que moi c'est
aussi.
l'inverse, tu vois, je suis un petit peu détaché depuis un an de ce qui se fait autour de Spider-Man. Mais bon, tant mieux, bah comme ça on en a un dans l'équipe, tu vas prendre
Mais
la
deux,
relève.
parce que moi j'avais complètement lâché Spider-Man, et Dan Slott a ravivé mon intérêt pour le personnage.
Ah bah depuis qu'on a
C'est...
arrêté Brand New Day quoi, c'est
Oui,
franchement
oui.
carrément meilleur quoi.
Il se passe des choses, il y
Voilà.
a, on n'a pas des sagas en 18 parties, je crois que le plus long pour le moment c'était sur des trucs en 3 ou 4 parties.
Bah on a
C'est,
le
ça va vite, c'est
Spider
bourré
Island,
d'idées.
ouais, qui était assez long, mais.
Ouais, en 6 parties, mais moi j'avais l'impression que ça allait vite parce que ça sortait tous les 2 semaines, donc
Non mais enfin voilà, moi j'aime bien ce changement pour Spider-Man, ce renouveau qui date depuis maintenant un an, hein, c'est clair. Peut-être même un peu plus. Mais enfin voilà quoi. Moi ça me plaît et donc bah, je trouve que l'univers Spider-Man bouge bien, à défaut de le voir un peu trop dans d'autres séries, comme les 4 Fantastiques, comme
Ah non, il est
Avengers.
bien dans le 4 Fantastique.
Mais c'est Guillaume, il se reconnaîtra. Qui me disait ça, et un truc que j'avais jamais vu, et maintenant je ne peux pas m'empêcher de le voir, le costume de Spider-Man dans les 4 Fantastiques est le même que Deadpool dans X-Force.
Ouais, c'est vrai qu'il y a
Bon,
un...
ouais. J'avais pas l'impression.
Et
Petit côté.
du coup c'est terrible, et maintenant je ne vois que ça, donc merci à toi Guillaume.
Mais c'est surtout que Deadpool dans X-Force me fait vraiment penser à Spider-Man et il est moins taré que qu'ailleurs quoi. Il est bien plus raisonné dans X-Force. Ça me gêne un petit peu d'ailleurs, parce qu'il est quand même assez
Bah, en même
comment
temps, la
dire
série X-Force est beaucoup plus sérieuse, donc ça serait difficile d'avoir le Deadpool de Daniel Way dans cette série, quoi.
Ouais mais dans ce cas-là, faut pas le mettre Deadpool dans une série comme ça. Oh putain, mais c'est extraordinaire! À chaque fois, dans un enregistrement, ça va encore me hanter, ça.
Je crois que je vais le laisser celui-ci au montage. Ou est-ce que
Non
tu
mais
veux que je le
c'est
coupe?
extraordinaire, putain, ça m'arrive jamais normalement. Mais c'est le fait de faire des podcasts, on doit parler vite, on doit terminer sa phrase rapidement, etc. Et j'ai la fâcheuse tendance, pendant les enregistrements, de boire du soda.
De chance.
Ce qui n'arrange rien.
Donc oui bon de toute façon Deadpool je crois qu'on en a plus pour très très longtemps.
Pourquoi?
Ah bah quand même
Ah
apparemment
oui.
voilà. Bon on n'en dira pas plus pour ceux qui ne sont pas au courant, on va pas trop spoiler.
Oui, mais bon,
Ça
ce genre de
rentre même
choses,
plus.
ce genre d'histoire, ça dure tellement longtemps dans l'univers Marvel que...
Mais je décerne quand même la palme du plus beau de la plus belle résurrection à la résurrection de Joseph dans Magneto Not a Hero hein, numéro 2. Quand même, c'est-à-dire que on a Astra qui vient et
Je
qui
savais
dit
pas qu'il était
reviens,
revenu.
reviens Joseph et hop il arrive.
Joseph,
Tant mieux
Joseph,
qu'on...
Joseph, reviens.
Sérieusement,
Joseph,
c'est
reviens.
la résurrection la plus pourrie que j'ai pu voir.
Reste parmi nous! Oui,
C'est-à-dire
d'accord,
que
ok, j'arrive.
il était pas là et pouf pouf, il est là. Non mais c'est nul quoi. Bon bah je crois qu'on a fait un épisode assez long, je voulais faire court, mais non.
Non,
Bon, c'était le
je
premier de
ne sais
l'année.
pas faire, nous, il faudra falloir que ce qui se passe.
C'était le premier de l'année. Bon, moi, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver quand même.
Ouais.
Ouais, pas plus que ça, finalement, je vais peut-être repartir.
Enculé. Pardon, il est venu du fond du cœur, celui-là. Ouais, non, 3 semaines sans podcast, ça nous a fait. Enfin, moi, perso, ça m'a fait un bien fou aussi, un petit peu de prendre ça comme ça. Bah, si, ça permet de repartir
Non,
sur
bien
de
sûr,
bonnes
non, mais
bases.
bien sûr.
De plus faire de montage, oui.
Mais c'est surtout ça, en fait. C'est pas le temps de les enregistrer, c'est de monter derrière le problème.
Ouais.
Bon, bah, se retrouver la semaine prochaine pour le prochain Comics Weekly. Vous nous retrouvez d'ici là, comme d'habitude, sur Facebook, sur Twitter, sur le site, bien évidemment, avec les commentaires, avec tous les articles que nous pond notre ami Sam.
Oui, jusqu'à la mort. Et
De toute
après?
façon, on est ouvert 24 heures sur 24, comme vous le savez, surtout Steve d'ailleurs.
Je crois qu'on va finir là-dessus.
Je ne commenterai pas, je laisserai le doute planer.
Non, je me disais simplement que tu étais ouvert parce que Green Lantern, quoi, c'est tout. Vous avez toujours un esprit mal placé, je comprends
Oui, bien
pas.
sûr.
C'est nous qui avons l'esprit en place, oui.
Bien
Ouais.
sûr.
C'est le X de Comic City, comme je dis toujours. Oui, et puis bah, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse, c'est podcast@comiccity.fr. Et je tenais à remercier tout particulièrement Fréto pour son message de bonne année qui nous envoyait par mail. C'était très 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 gentil, ça nous a fait vraiment super plaisir.
Oui.
Ah oui, c'est vrai. Effectivement, merci à toi Freito pour tous ces vœux et ces encouragements.
Alors, on va tâcher de te faire honneur.
Enfin, comme il nous a dit, le AW de Freitao prononce comme le H de Hawaï, donc Freitao.
Ou Freitai. Freitai. Freitai.
Écoute, excuse-nous si on a écorché, je suis vraiment désolé.
Ah bah
désolé.
Oui, mais Hawaï, why, quoi, donc, non, mais why, mais why, c'est
ce que ça se dit. Donc, H, Freita, je pense. Bon. Bah écoute, désolé si on a écorché, hein, pardonne-nous.
Freitai. Freitai.
Et en tout cas, merci pour ton mail, vraiment, ça nous a fait plaisir. Et donc, vous pouvez nous envoyer des mails qu'on lira à l'antenne ou qu'on ne lira pas, en fonction de si vous vous précisez ou pas. Faites un peu comme comme Marvel ou DC demande un OK to print pour être mis dans la page de lettres. Bien, dites-nous si vous voulez. Dites-nous si vous ne voulez pas qu'on le lise à l'antenne, sinon on le lira. Donc, l'adresse est podcast@comiccity.fr. Je m'embourbe, donc je me speed. Merci beaucoup, encore une fois, bonne année, puisque c'est vrai que je crois qu'on ne l'a même pas souhaité en début de podcast.
C'est vrai qu'on a peut-être oublié, je sais plus.
Ah, remarque, si tu as dit plein d'espérance, d'espoir et tout, et sur ce, ça m'est parti dans le désespoir, le noir le plus total.
Ouais. Donc j'ai fait l'erreur de regarder les infos.
Encore une fois, une très très bonne fin d'année, un très très bon début d'année. Qu'est-ce que je raconte comme connerie?
Oh, vous avez entendu
début de 12, putain, c'est passé vite, hein.
Un très très bon début d'année, plein de bonnes choses et plein de comics, et surtout, restez à l'écoute.
Oui.
Et restez triple A.
À bientôt, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Ciao à tous.